from my heart. Coming from my heart.
Salut à tous, c'est Dubstation, votre rendez-vous dub sur les antennes RDWA, Radio Saint-Ferréol et Radio Alto. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Raphaël, aka Rafiral Firo, artiste que je vous ai déjà quelques fois présenté et souvent passé, et puis qui m'avait fait le plaisir de venir au premier rendez-vous Psycho by Dub Festival l'année dernière, le 25 juillet 2009, et cette année, pour la deuxième édition le 14 août, il est revenu parmi nous pour nous faire un set un petit peu différent. Alors pour ceux qui ont suivi et qui ont écouté les compiles Psycho by Dub, eh bien il était en trio l'année dernière et donc cette année c'était tout seul. Pour du dub aussi mais un peu plus, je vais te laisser te présenter Raph, merci en tout cas d'être venu et puis à toi la parole.
Bah, merci beaucoup, que dire sur ma musique, c'est un mélange de pas mal de choses, pas que du dub en fait, pas mal d'électro et de musique du monde. Et du hip-hop aussi. C'est vrai que le dub, pour moi, c'est surtout la façon de traiter les sons, plus que le reggae, qui est en fin de compte une musique que j'écoute assez peu. Mais voilà, je sais que ma musique se prête bien à des sound system dub ou à ce genre de soirée, parce que c'est un peu dans la même idée de la musique, de remixer un peu toutes les influences, un peu comme le dub, ce qu'on appelle le dub à la française, le dub électro, la scène Jarring Effect et compagnie, du début en tout cas.
Et j'avais envie de rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Le dub est pour toi plutôt une approche électronique. Souvent les gens me demandent et en fait je suis pas du tout venu au dub par le reggae. Et donc toi c'est par l'électro.
Ouais, en fait c'est par l'électro et en même temps je suis venu à l'électro par le dub en fait. C'est vrai que j'ai commencé à faire de la musique électronique sans rien connaître en fait à l'électro. Et c'est vrai qu'un des premiers groupes qui m'a donné envie de faire de la musique électronique, quoi, avec un ordinateur, c'était iTone. Donc, après, à l'époque, je ne savais pas si c'était du dub ou de l'électro ou quoi que ce soit. Mais en même temps, c'est plus cette approche, l'approche qu'ils ont de traiter la musique, de sampler, ce côté un peu cinématique qu'il peut y avoir aussi dans leur dub, que moi j'aime bien. Et puis le côté aussi musique du monde, qui moi m'apporte beaucoup, qui est un peu le fil rouge de ma musique. En fait.
iTone, c'est un peu facile. Pourquoi iTone ?
C'est juste parce que j'ai un pote qui m'a fait découvrir ça. Mais c'était déjà à l'époque du deuxième ou troisième album. Donc moi, j'ai pas suivi du tout l'arrivée de cette scène-là. Je sais pas si c'est des précurseurs plus que d'autres. En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup leur musique. Toujours maintenant, d'ailleurs, même s'ils ont pris un tournant un peu différent. Mais non, c'était plus un hasard, une rencontre musicale, on va dire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a amené. C'était un genre de musique que j'écoutais pas du tout. Et c'est quelque chose qui m'a vachement inspiré et qui m'a amené à découvrir d'autres choses, plus électroniques ou plus dub mais dans cette inspiration un peu.
Avant cette écoute des albums d'iTone, tu faisais pas de musique ?
Je commençais à balbutier sur mon ordinateur et je faisais du piano avec un apprentissage plutôt classique. J'ai toujours eu envie de composer, mais étant un pianiste assez médiocre, je pouvais pas jouer ce que je composais. Donc en fait, pour moi, quand j'ai découvert qu'on pouvait faire de la musique, séquencer de la musique sur un ordinateur, ma première idée, ça a été de superposer des pistes de piano pour pouvoir enfin pouvoir écouter ce que j'avais envie de composer au piano. Et après, c'est venu plus tard, on va dire, suite à quelques erreurs de bidouillage, des sons rigolos, etc. Et on va dire le côté ludique et libre de la musique électronique est venu comme ça, en fait.
Qu'est-ce que tu veux nous faire découvrir pour commencer ? Ou redécouvrir, ouais. Parce que maintenant que je vois la playlist...
Ouais. Écoute, c'est un morceau d'un album que j'ai enregistré donc cette année, en conditions un peu professionnelles, on va dire, dans un vrai studio, avec des musiciens qui m'accompagnent en live, donc qui étaient là l'année dernière. Donc le fameux trio, donc c'est basse et batterie, en fait, jouées en acoustique, et moi aux machines. Et sur cet album, on a aussi un invité qui joue plusieurs instruments. Donc c'est un morceau qu'on a joué l'année dernière à Psycho by Dub, et ça, c'est un peu la version... officiel, masterisé et tout, qui pète quoi. Studio quoi, voilà. Donc ça s'appelle Adèle.
Je tombe jamais sur le bon numéro. Je tombe jamais sur le bon numéro. Je sais pas. Quand j'étais petite, j'avais qu'une seule idée, c'était de grandir. Je voulais que ça aille plus vite. Mais maintenant, je sais pas à quoi ça a servi tout ça. Je sais plus. Je deviens plus vieille. Thank you.
Adèle de Raphir Alfiero. Corentin, on était en train de parler un petit peu de cet album et c'était intéressant. Déjà, première chose, la musique de Raphir Alfiero, je vous l'ai que trop dit, elle est gratuite en téléchargement libre sur internet. Jusqu'à maintenant, c'est toi qui enregistres seul, chez toi, dans des conditions, on va dire, allégées. Et donc, faire un album, qu'est-ce que ça engage nouveau?
Des fonds déjà. Parce que c'est vrai que dans la musique libre, c'est beaucoup de musiciens électroniques qui peuvent se permettre de vendre leur, enfin de donner leur album en fait gratuitement, parce qu'il leur coûte pas grand chose, on va dire, à la production. Alors je parle pas de temps, de travail, etc. Ce qui de toute façon on peut pas se mesurer en salaire ou quoi que ce soit, mais je parle au niveau des moyens de production. C'est vrai qu'à partir d'un moment où on a un PC un peu moderne et les logiciels et la connaissance qui va avec, on peut enregistrer un album à peu près en musique électronique, comme ça, comme on appelle en home studio, quoi. Donc c'est toujours ce que j'ai fait jusqu'à pour cet album-là, où j'avais décidé, vu que je jouais en live avec des musiciens acoustiques, basse et batterie, j'avais envie de faire un vrai album, aussi pour démarcher les salles de concert, parce que c'est vrai que même si le support physique est en baisse des ventes, c'est encore très important dans le monde de la musique d'avoir un CD, quoi, une plaquette, entre guillemets, enfin un CV en fait, quoi, c'est un peu un CV, quoi. Donc on avait décidé de presser un disque et on s'était dit tant qu'à faire, autant faire un vrai enregistrement studio. C'était aussi pour nous l'occasion de fixer un peu tous les morceaux qu'on avait en live, qu'on avait travaillé, donc dans ces versions avec basse et batterie en acoustique. On a fait ça dans un vrai studio, on a pris une semaine pour le faire, et l'argent que ça coûtait aussi, pour avoir un ingé son à nos côtés qui nous drive un peu quand il fallait, avec du matos professionnel, quoi, d'enregistrement, tout en analogique, etc. Donc voilà, c'était assez stressant et intéressant et fatigant comme expérience, mais c'est très intéressant de fixer comme ça les choses, parce que c'est le home studio, on peut toujours y revenir en fait, alors que là le studio, bah, il est pas à soi, donc on y va pour une semaine et puis quand c'est fini, bah, c'est fini, quoi. Ou sinon, il faut se repayer nos sessions. Mais du coup, ça fixe les choses et c'est pas mal. Pour moi, c'était pas mal parce que c'est vrai que je suis pas mal perfectionniste et que j'aime bien toujours reprendre, en fait, les morceaux. Voilà, quoi. Donc, c'était une expérience très intéressante et on est très content du résultat.
Cet album est vendu au public? Il est téléchargeable ou comment?
Alors, pour l'instant, on le vend en concert, en fait, à la fin des concerts. Donc, l'album est toujours sur licence libre Creative Commons. C'est-à-dire qu'il peut être partagé comme ça à l'envi. Par contre, pour l'instant, il n'est pas en téléchargement libre, parce que c'est vrai qu'on l'a fait d'abord dans une optique de démarcher les professionnels de la musique, notamment les salles de concert et les festoches. Et la vente, quelque part, c'est un plus, bon, aussi parce que c'est intéressant, c'est aussi fait pour ça, mais c'est vrai qu'on ne compte pas en vendre des masses, on est assez réaliste là-dessus. Mais voilà, on les vend à la fin des concerts, peut-être par correspondance, un de ces quatre, bientôt à la rentrée. Mais pour l'instant, c'est vrai que l'album est pressé depuis assez peu, donc il a très peu tourné, à part dans les mains des professionnels, quoi.
Dans les mains des professionnels, ce CV, c'est pour vendre du coup la configuration trio plus que toi tout seul, en fait, là.
Bah, en fait, non, pas vraiment.
Du coup, il n'y a écrit que Raphir Alfiero sur la pochette.
Voilà, parce que déjà, on a décidé d'arrêter d'appeler ça Raphir Alfiero Trio et présenter comme une entité séparée, parce que ça fait deux fois plus de travail, et alors que c'est souvent les mêmes morceaux, la même musique... Mais par contre, c'est vrai que c'est une formule live que j'essaie de mettre en avant, notamment en fait quand ça s'y prête, c'est-à-dire plutôt dans les salles de concert ou les festivals sur des grandes scènes. Et moi, je garde mon live tout seul pour tout ce qui est sound system, plus club, etc. Donc ça dépend vraiment de la soirée. Je m'en sers aussi pour démarcher pour moi, enfin en général pour le projet Raphir Alfiero en entier, quoi.
Cet album n'est pas vendu, un petit peu comme ça en fin de concert. Ta musique ne l'est pas non plus. Comment on vit de la musique libre?
Bah, par l'argent des concerts, en fait, les cachets, parce que c'est à peu près le seul moyen, enfin, en tout cas le plus évident, en fait, d'en vivre maintenant, que ce soit de la musique libre ou le reste, en fait, d'ailleurs. Ça change pas grand-chose à ce niveau-là, parce que même au contraire, le fait que notre musique soit gratuite, elle est plus facilement... diffusable, et du coup ça nous permet de démarcher plus facilement, d'être plus facilement connu aussi quelque part. Après, c'est vrai qu'on n'a pas, si on passe en radio, ce qui ceci dit est assez rare, si on passe en radio, c'est vrai qu'on touchera pas de royalties, mais bon, ça c'est pas non plus une partie. À partir du moment où t'es pas en rotation sur une grosse radio, c'est vrai que ça sert pas à grand chose d'être à la SACEM, les royalties ça sert pas à grand chose. Et puis de toute façon, c'est aussi un choix, je veux dire, pas forcément politique, mais éthique, de pas céder ses droits à un organisme comme ça, sans aucune raison valable, quoi.
Oui, puisqu'en fait, que ce soit dans le dub ou dans la musique électronique, et je ne le dis que trop dans cette émission, finalement, ce qui est intéressant, c'est quand même d'être remixé, d'être réutilisé, et de pouvoir soi-même aussi remixer les gens.
Exactement, c'est l'intérêt de la musique électronique dans le sens très large de cette musique, ou du hip-hop aussi. Ce recyclage... infini presque de la musique, ce croisement de sons, d'influences qui n'en finit plus en fait. Moi je trouve ça très intéressant et qui donne lieu à des nouvelles formes d'expression musicale.
Et est-ce qu'on peut considérer qu'à partir du moment où tu l'as lâché sur internet, même si c'est toi qui l'as fait, ça ne t'appartient plus, c'est retour à la source, au bon vouloir des autres, de ceux qui veulent l'écouter déjà et puis de ceux qui voudraient en refaire quelque chose?
Alors ça c'est une question très compliquée, est-ce que l'œuvre appartient à l'artiste? Mais je pense que quelque part, il en a la paternité, mais c'est vrai qu'à partir du moment où c'est un produit fini, enfin j'aime pas trop le mot de produit, mais en tout cas où c'est fini, quelque part il y a une séparation et l'œuvre évolue elle-même à travers toutes les expériences que peuvent avoir les auditeurs en l'écoutant. Voilà quoi, c'est vrai que la musique c'est quelque chose d'intemporel et impalpable qui est assez... qui est pas matériel vraiment, donc qui est assez libre quoi par rapport à son... par rapport à son créateur, alors que par exemple une œuvre, je sais pas, un tableau, c'est vrai qu'il a une existence physique, il appartient à quelqu'un. La musique c'est plus compliqué et d'ailleurs je pense que c'est pour ça que les licences libres se sont très bien développées en musique, parce que c'est quelque part un art qui s'y prête beaucoup.
Bah on va s'écouter un remix là que je vois dans la playlist, comme ça on parle de remix, allons-y.
C'est un remix du groupe parisien Molécule, enfin du producteur parisien Molécule, producteur de dub. Donc il avait lancé un concours de remix avec son morceau Fallujah. Il avait placé le morceau justement en Creative Commons pour qu'il puisse être remixé sans problème Lego.
Parce que c'est pas son cas d'habitude, hein.
Exactement.
Thank you.
Africa Lugia, remix de Fallujah de Molécule par Raphaël Alfiro. Ben moi je veux bien savoir, les auditeurs sans doute aussi, comment tu fabriques tes morceaux, à partir de quoi, et aussi quel matériel tu utilises.
J'utilise un logiciel donc sur PC qui s'appelle Fruity Loops, qui est un séquenceur pas vraiment professionnel en fait, qui est d'une petite boîte belge qui le produit depuis plusieurs années, là on en a la version 10. Mais qui est un super instrument de composition et qui me permet de travailler, moi, la musique comme j'ai envie de le faire. Comme matériel sonore, j'utilise beaucoup des samples, en fait, que je récupère sur des disques que j'écoute, ou à la télé parfois, ou par les concours de remix aussi, qui proposent des pistes séparées de morceaux qui existent déjà. Donc moi, j'aime bien découper, en fait, les samples, une phrase musicale préexistante, et la modifier, la remettre dans le désordre pour créer en fait une nouvelle mélodie, mais tout en ayant un matériau de base qui est déjà assez riche, puisque c'est déjà de la musique, et c'est pas juste un instrument isolé, ça peut être pas mal de choses, donc ça permet de jouer en fait avec des couleurs un peu musicales, plus qu'avec des notes en fait, des mélodies, plus qu'avec du solfège classique quoi. Donc ça, ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse vachement, et c'est quelque chose que permet de faire la musique électronique et qui est pas forcément possible dans d'autres musiques, même si ça a été un peu approché dans la musique classique, par exemple, ou dans d'autres, mais c'est quelque chose qui m'intéresse vachement, ce principe de couleur et d'impressionnisme musical.
Et sur lesquels tu rajoutes aussi des instruments additionnels d'invités ou que toi-même tu joues ou...
Alors moi, je joue pas de grand-chose à part des claviers, donc c'est vrai que moi, je joue pas mal les samples justement au clavier pour leur redonner une dynamique, un peu un jeu... mais sinon oui, ça m'arrive de jouer avec des musiciens, notamment un musicien qui s'appelle Victor Stoikitsa, qui est multi-instrumentiste et qui fait pas mal d'instruments, on va dire balkaniques et autres, en fait des flûtes, des espèces de oud en fait, ou des sansa, des pianos à pouce africains. Voilà, et puis mes comparses, batteurs, bassistes, Pierre Ikovic à la batterie et Ertu Tamaz à la basse, voilà. Ou aussi des chanteurs, des chanteuses, rappeurs.
Tout ce qui touche à la rythmique, pour rester dans le dub, tout ce qui touche à la rythmique et à la basse, c'est produit comment ?
Alors c'est produit avec des samples, généralement plutôt des samples qui peuvent provenir de banques de sons, donc des choses peut-être plus classiques au niveau de la production électronique. Après moi j'essaye d'adapter à ma manière. C'est vrai que moi j'aime beaucoup les percussions par exemple, notamment latines. Donc c'est vrai que j'essaye même sur un rythme, on va dire, classique de dub, j'essaie toujours de rajouter des petits éléments un peu rythmiques pour enrichir, on va dire, le groove. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est peut-être le côté le plus classique de ma musique. Après, c'est vrai que les rythmes en eux-mêmes peuvent être un peu différents de ce qu'on peut entendre, mais la façon de les faire, c'est souvent à partir de banques de sons, en fait, à partir d'éléments séparés qui sont séquencés de façon à former un rythme complet de batterie. Et pareil pour la basse, ça peut être avec des synthétiseurs ou avec des samples, ça c'est un peu plus varié peut-être.
Et dernière chose, moi, qui me touche particulièrement dans ta musique, c'est un aspect un peu plus trance, avec des nappes ou des choses qui tournoient, des grandes, des vagues, des nappes de synthé qui emportent, qui font un peu ça pareil, c'est ton cru ou c'est de nouveau des samples ?
Ça provient vachement de la façon de traiter en fait les samples ou les sources sonores en général avec ce qu'on appelle les effets, donc les plus connus c'est le délai, en fait l'écho ou la réverb, les filtres en fait de fréquence. Et après, c'est une façon de traiter la musique, en fait, en général. Moi, c'est vrai que la musique hypnotique ou psychédélique, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément dans des styles très différents. D'ailleurs, au départ, c'était plutôt dans le rock des années 70, parce que c'est plutôt ce que je connaissais. Maintenant, je découvre un peu ce penchant-là de la musique dans l'électro, notamment tout ce qui est ambiante, psytrance et tout ça, qui étaient des choses que j'écoutais pas du tout avant, mais qui m'intéressent énormément. Et qui joue beaucoup là-dessus, en fait, sur le côté hypnotique, qui peut être créé par la répétition, mais aussi par certaines fréquences, des balayages. Il y a pas mal de techniques. Ça vient pas forcément. Je me dis pas forcément que je vais faire un truc hypnotique. Tout ça, c'est généralement ça vient un peu tout seul. Parce qu'il y a aussi le côté musique du monde, avec ce côté un peu folklorique, un peu ancien et un peu trans aussi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de musique de trans dans la musique folklorique et traditionnelle, voilà, donc c'est quelque chose que moi, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, c'est beaucoup là-dedans que je pioche mes samples et donc souvent les bases des morceaux, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans la musique, le côté trans en fait, ce côté un peu de par la répétition on peut arriver à quelque chose d'autre en fait, vraiment un état, que ce soit musical, purement musical, ou l'état de l'auditeur quand il écoute, ou de celui qui le fait, enfin des musiciens qui le jouent. Quoi.
Tu nous as parlé de Victor Stoikitsa, qui a travaillé donc avec toi sur l'album réalisé donc en trio, n'est-ce pas ? Et de cet état de transe, il y a deux morceaux qui dépassent les 10 minutes sur cet album, et je voulais qu'on en passe un. Moi, je l'ai écouté vite fait, je crois, hier soir, avant d'aller me coucher, et c'est celui-là que j'avais envie de passer. Est-ce que tu peux nous présenter ce morceau ?
Oui, alors il s'appelle In Limbo, c'est le titre de l'album d'ailleurs. Et c'est un morceau qu'on a composé en fait avec Victor lors de concerts qu'on faisait tous les deux, qui se basaient surtout sur des improvisations. Donc c'est un morceau qui est un peu parti d'improvisation. Et on avait une structure plus ou moins établie qu'on a présenté donc au batteur, au bassiste. Et c'est vrai que c'est les deux morceaux en fait avec Victor qu'on a enregistrés sont un peu construits dans le studio, leur version définitive. C'était un peu des improvisations qui ont pris forme comme ça dans l'urgence. Et c'est assez intéressant le résultat quoi. Sur ce morceau-là, il joue la flûte bulgare qui s'appelle le caval et au bouzouki qui est un petit oud, donc un petit luth en fait de Grèce.
In Limbo, du nom de l'album de Raphir Alfiro. Vous êtes bien sur Dubstation, sur les antennes RDIWA, Radio Saint-Ferréol et Radio Alto. On va enchaîner en parlant un peu plus de Raphir Alfiro tout seul maintenant. Les autres influences que tu as, et notamment le hip-hop dont tu me parlais tout à l'heure, et l'approche de la musique électronique par le live, et ce que ça apporte de plus à une production plus serrée en trio par exemple, ou simple, ou simple mouvement dub qui impose des codes quand même dansant, de rondeur, d'enveloppement.
L'apprentissage de des concerts en fait, que ce soit en version avec des instruments ou tout seul. Dans ma musique, j'ai beaucoup appris à partir du moment où j'ai commencé à faire des concerts, à travailler ça sérieusement, pas juste à adapter des morceaux que je faisais, à essayer de les jouer en live, en tripotant quelques boutons, mais vraiment à penser un concert dans son entier, un set comme on dit quoi, du début à la fin, avec en essayant de comprendre qu'est-ce qui était important de transmettre aussi, voilà justement les codes, le fait de faire danser ou pas toujours, parce que j'aime bien aussi le côté un peu contemplatif qu'il peut y avoir dans ma musique, même si c'est plus difficile d'imposer ça en live à des gens, c'est pas toujours évident justement à placer dans la construction d'un concert. Justement, on a beaucoup travaillé notamment avec le trio, on a beaucoup travaillé sur la précision du jeu en fait, et du coup du groove en fait, et de ce qui fait que les petites choses qui fait que ça devient dansant. Je sais que pour les gens qui font pas de musique, ça paraît pas grand chose, mais en fait c'est beaucoup de travail derrière généralement. Puis voilà, aussi la conception de la musique en tant que telle, c'est un peu le fait de faire des lives, ça a un peu changé la conception de la musique. Avant, c'est vrai que je faisais une musique qui était peut-être plus cinématique, qui était plus destinée à l'écoute au domicile, tranquillement dans le casque, etc., et moins au concert en fait. C'est vrai que j'ai eu un petit temps d'adaptation qui a pas été facile à partir du moment où j'ai commencé à faire des concerts, mais maintenant c'est vrai que je suis plus dans une optique de faire danser les gens tout en continuant justement à les faire voyager. Enfin, c'est quelque chose qui revient souvent dans les retours que j'ai après les concerts, ce côté un peu hypnotique, mais en étant assez exigeant sur le côté dansant, que les gens peuvent danser, qu'il n'y ait pas trop de temps mort, etc. C'est assez important en fin de compte, quoi. Et ça m'a beaucoup appris.
Mais par contre, t'hésites pas à pousser dans les breaks et à passer bien au-delà de ce qui est dansant.
Il y a aussi un côté où il faut penser au public quand on fait des concerts, mais il faut aussi penser à soi, dans le sens où moi j'essaie de quand même pas mal improviser, notamment sur les effets, notamment sur les breaks, sur la batterie et tout ça. Et j'aime bien ce côté un peu, j'ai toujours aimé moi la syncope dans la musique, le côté un peu saccadé, les rythmes un peu plus compliqués, notamment les rythmes latins, un peu tout ça, des rythmes qui se superposent. C'est pas de la musique élitiste en fait, c'est juste que c'est quelque chose que j'aime bien. J'essaye aussi de faire passer ça pendant les concerts. Pas trop, faut pas que ça soit trop expérimental, sinon c'est pas intéressant. Mais j'aime bien ce côté-là, j'aime pas quand c'est tout propre, tout répétitif comme ça. J'aime bien que ça soit vivant, je trouve que ça donne un côté assez vivant à la musique. On a presque l'impression que la musique en fait vit par elle-même, quoi, par tous ces... un peu ces petites manipulations aléatoires, etc. C'est assez intéressant. Du coup, moi-même, je suis surpris... parfois du résultat pendant les concerts, et c'est assez intéressant de garder cette interaction en fait.
Alors t'enregistres tous tes concerts ?
Non, quand j'y pense, je le fais, ça dépend. J'enregistre souvent les répètes que je fais chez moi, les filages que je fais avant les concerts. C'est comme ça, ça me permet de réécouter aussi et de voir ce que je fais de bien ou pas. Mais il y a quelques concerts qui ont été enregistrés, notamment un que j'ai fait à Berlin en octobre, et qui était pas mal improvisé pour la peine et qui s'est révélé être très bon, parce que, enfin, je dis ça parce que c'est rare que je le dise, généralement je suis pas satisfait de moi. Donc.
T'aimes te réécouter ou tu fais comme les réalisateurs de films ou les acteurs? Ah non, moi je me regarde pas jouer.
Non, moi je me réécoute beaucoup en fait, pas mal par souci de perfectionnisme, rarement par auto-congratulation ou je sais pas quoi. C'est vrai que des fois, voilà, quand je suis satisfait de moi-même, c'est assez rare, mais quand je suis satisfait, c'est clair que c'est quelque chose qui est plaisant et qui est agréable, quoi. Mais bon, je vais pas me repasser le passage où je trouve que j'ai trop assuré pendant 10 fois parce que ça me fait kiffer, quoi. C'est pas dans cet ordre-là.
Je voulais quand même que tu nous parles un peu de cette influence hip-hop, parce que dans les productions où on peut te retrouver tout seul, il y a quand même cette rythmique qui vient du dub, hein. De toute façon, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est les premiers en musique électronique. Cette rythmique hip-hop, donc plus rude, plus appuyée, plus violente peut-être, et de cette influence latine.
Ouais, alors en fait, ça vient surtout du fait que mon père, en tout cas quand j'étais petit, écoutait beaucoup de musique latine, surtout cubaine en fait. C'est vrai que c'est quelque chose qui est du coup pas mal rattaché à mes racines, de par la langue aussi espagnole, bien sûr.
Que tu pratiques ?
Que je parle, mais que je pratique malheureusement assez peu. Et après, moi-même, j'ai découvert aussi tout ce qui est musique d'Amérique du Sud, musique brésilienne, argentine, tango, colombienne, enfin toutes les musiques en fait. Moi, j'aime beaucoup surtout le côté rythmique, le croisement de divers rythmes qui ont donné des rythmes un peu mutants comme ça, avec des syncopes, tout ça. Moi, ça m'intéresse beaucoup, quoi.
Qu'est-ce que tu pourrais nous présenter de plus expérimental?
Donc, on s'écoute un morceau qui n'a jamais sorti, en fait, qui est justement fait partie d'un projet qui n'est pas encore sorti. Je ne sais pas s'il sortira, mais d'un album collaboratif avec un ami à moi, DJ espagnol, qui s'appelle Winnie 2.0. On voulait faire de la production hip-hop, s'entourer de rappeurs francophones, hispanophones, d'un peu partout, en fait. Et donc, il y a pas mal de morceaux, de démos, on va dire, qui sont sortis.
Mais tu avais sorti quelque chose quand même avec Winnie, j'ai déjà vu quelque chose.
On a sorti un album live qu'on avait enregistré à Paris. C'était d'ailleurs le premier album que j'ai sorti sur Fresh Pulp, qui reprenait en fait plutôt des morceaux à moi et des morceaux à lui, qu'on adaptait en live, donc du coup qui étaient différents des versions préexistantes. Mais là, c'est plus des choses qu'on a fait en fait dans une optique de faire quelque chose en commun, de se faire un répertoire en commun plutôt. Le morceau qu'on va écouter, c'est juste une instru comme ça, un peu trippé sur du hip-hop, en reprenant pas mal de samples de scratch à lui en fait.
Bon bah avec ça c'est clair qu'on est loin du dub. Là à l'instant tu me parlais des rééditions et tout ce que tu réécoutes de toi. Est-ce qu'à un moment donné tu t'en resserres aussi pour en refaire d'autres sons?
Oui bien sûr, bah, je pense que tous les musiciens font ça. C'est vrai que des fois on fait des esquisses un peu de morceaux qui donnent jamais rien et qui restent en état comme ça avec quelques samples superposés. Et on se dit ah bah tiens bah, ce morceau il est pas terrible mais par contre c'est vrai que la rythmique est bien donc ça peut arriver de retravailler comme ça. Bon, en fait c'est quelque chose que je fais souvent en vitesse quand je travaille le live et que des fois je me dis tiens là il faudra un interlude ou il faudra autre chose. Et d'ailleurs ça donne souvent lieu à de nouveaux morceaux qui sont créés et qui sont jamais vraiment fixés puisqu'ils sont joués qu'en live en fait. La musique c'est du recyclage perpétuel, je pense qu'on se recycle soi-même. Avec le temps, les lives que je fais évoluent, c'est vrai qu'il y a des morceaux qui apparaissent, il y en a d'autres qui disparaissent, il y en a d'autres qui se transforment, qui viennent plus tard dans le set ou plus tôt, etc., qui vont changer de tempo, je sais pas, c'est assez malléable en fait. C'est ça qui est bien avec la musique électronique, c'est que ça donne encore plus de malléabilité à la musique quoi.
Et est-ce qu'il y a des choses que t'arrives plus à jouer?
Ouais, il y a certains morceaux dont j'ai un peu marre, qui en fait, où à force de les jouer, quelque part l'excitation s'en va un peu, quoi. Alors des fois, il suffit juste d'arrêter de les jouer pendant quelques mois et de les rejouer, retravailler souvent, parce que l'intérêt c'est aussi de les retravailler, du coup, leur donner une deuxième jeunesse, quoi. Mais oui, ça arrive, il y a des morceaux qui sont un peu laissés de côté, mais bon, qui reviendront sûrement sur le devant de la scène, un C4, sous une forme ou sous une autre d'ailleurs.
Tu parlais de recyclage, je vais partir du principe que tu serais un artiste qui officie plutôt dans le dub. Et bien sûr, je me trompe, puisque les premières productions qu'on a vues de toi sur Internet étaient plutôt dans des ambiances cinématiques et atmosphériques. Et puis, tu produis du hip-hop. C'est quoi, c'est de la boulimie de production?
Bah, y a deux choses. D'une part, s'attaquer à un style musical à un moment donné à fond, ça permet d'en saisir les codes. Par exemple, moi, le hip-hop, c'est quelque chose que j'ai beaucoup écouté, mais j'ai mis assez longtemps à en faire vraiment et à faire des choses qui me plaisaient, quoi. Et à reproduire ce que j'entendais. Parce que c'est vrai que le hip-hop, en plus, c'est une musique, c'est un peu comme le dub, c'est une musique qui est assez minimale, en fait, dans sa construction. Mais qui se base vachement sur l'efficacité, donc sur des petites choses en fait, que personne n'entend quand on les entend comme ça, et à moins de savoir comment c'est fait, mais voilà, par exemple, il y a des morceaux de hip-hop qui sont juste basés sur une boucle, en fait, sur un sample, mais le sample il est calé à la milliseconde près, pour qu'il y ait un tel mouvement, telle répétition, etc. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à aborder. Sans parler de tous les codes qu'il peut y avoir, comme dans le dub, où il va y avoir par exemple un reverb sur la caisse claire, ou voilà, tel ou tel break qui va être plus ou moins typé selon la musique. En fait, c'est pas spécialement de la boulimie musicale, enfin si, ou peut-être, je sais pas, mais c'est juste que moi j'aime plein de types de musique différents, et j'ai autant envie de faire du rock que du dub, que du hip-hop, que de l'électro, que de la musique traditionnelle. Voilà, vu que moi, mon instrument, on va dire, de production, c'est l'ordinateur, donc la musique électronique, c'est vrai que la musique électronique, c'est un peu le fil conducteur, on va dire, mais plus dans la production, en fin de compte, que dans le style musical, quoi.
Est-ce que tu as envie de nous faire découvrir une petite exclue?
C'est quelque chose de plus, justement, cinématique, de plus ambiante, qui a été fait pour un documentaire qui, en fait, bon, il n'y a jamais eu de documentaire, donc. Le morceau est resté aux oubliettes, mais c'est un morceau que j'aime beaucoup et que j'ai envie de vous faire partager.
Vous êtes bien toujours sur Dubstation et on s'écoutait Train to Tiva de Rafi Ralfiro. Et donc, c'était pas du dub, c'était de l'ambiant. Dans des bonnes soirées dub, on peut finir aussi comme ça. Et d'ailleurs, avant de terminer l'émission, je voulais aborder un dernier truc parce que quand même, Dubstation est produite sur RDIWA, donc Radio DIWA. Et si je peux enregistrer cette émission aujourd'hui avec toi, Raphaël, c'est parce que tu es chez nous. Tu es à Barnave et pour la deuxième année. Et cette année, t'es resté un petit peu passer des vacances ici. Alors, qu'est-ce que tu dirais aux gens pour les faire revenir ici, puisque c'est ton cas?
Bah déjà, c'est des gens, quoi. Déjà, c'est une rencontre humaine. C'est vrai que bon, cette année, je savais à quoi m'attendre, mais l'année dernière, c'était quand même la grande surprise. C'est que bon, qu'on va dans un festival comme ça, on ne connaît pas, on ne sait pas trop comment, à quelle sauce on va être mangé, parce que ça peut être très différent. Et là, c'est vrai que tout de suite, on a eu l'impression d'être reçus comme des amis. Et voilà, donc déjà, les gens, tous ces habitants de Barnave qui sont bien sympathiques, ma foi, et qui se bougent bien le cul pour faire des événements, et ça, c'est vraiment bien. Et puis après, c'est vrai que le cadre est magnifique, c'est un peu la Provence, c'est un peu la montagne, c'est un peu la Drôme, c'est un peu tout ça, c'est, je sais pas, moi c'est des paysages qui m'inspirent, c'est vrai qu'il y a plein de jolies blettes dans le coin, et puis les gens sont très sympathiques. Voilà, j'avais envie de revenir, l'année dernière ça a été très rapide, c'était un petit week-end comme ça, et le petit aperçu que j'ai eu m'a vraiment donné envie de revenir, quoi, pour toutes ces raisons-là.
Est-ce qu'on peut terminer là-dessus? Tu viens d'où? Tu vis où, Rafi Ralfiro?
Je vis à Cergy, en banlieue parisienne, dans le nord-ouest parisien. Voilà. Et je suis un enfant de l'Île-de-France.
Eh ben, merci. Je vais terminer en disant que l'enregistrement du festival Psycho by Dub, deuxième édition, sera bientôt mixé, compilé et à votre disposition en téléchargement libre, bien sûr, et je l'espère une nouvelle fois sur Fresh Pulp, et que bien sûr les artistes vont disposer du leur pour en faire ce qu'ils veulent. Je te remercie beaucoup d'avoir fait cette interview avec moi.
Bah, merci à toi et puis merci à tout Psycho by Dub pour le festival et l'invitation, quoi. C'était super.
Dubstation, une heure avec Rafi Ralfiro, c'est terminé pour aujourd'hui. Retrouvez bien sûr cette émission dans le programme RDIWA, Radio Saint-Ferréol et Radio Alto, et évidemment retrouvez l'émission à télécharger et à écouter comme bon vous semble sur le site internet de RDIWA au www.rdwa.fr. Allez, à la semaine prochaine. From my heart. Coming from my heart.